Vous écoutez France Culture. À plus d'un titre, le rendez-vous quotidien de l'actualité des livres.
Bonjour tout le monde, Philippe Vassé est avec nous pour la première partie de l'émission pour nous parler de son dernier roman paru chez Fayard, roman entre guillemets. Est-ce qu'il faut laisser tomber les guillemets pour parler de journal intime d'un marchand de canons? Bonjour Philippe Vassé.
Bonjour.
Et puis en deuxième partie, les essais avec Jacques Munier qui reçoit le philosophe Jean-Paul Curnier pour parler de son ouvrage paru chez Jacqueline Chambon, Montrer l'invisible, écrit sur l'image. À plus d'un titre, la deuxième partie de l'émission consacrée aux essais, c'est tout de suite avec Jacques Munier.
À plus d'un titre, deuxième partie. Bonjour à tous. Une émission consacrée aujourd'hui au livre de Jean-Paul Curnier. Bonjour Jean-Paul Curnier.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, écrivain, essayiste. Vous avez également une autre actualité, on en parlera très vite. Donc, ce livre publié aux éditions Jacqueline Chambon, c'est une série d'écrits sur l'image, c'est d'ailleurs le sous-titre du livre, Montrer l'invisible. Et puis vous publiez dans la maison de Michel Suria, Ligne, qui s'est rapproché du 104, ou le 104 s'est rapproché de Michel Suria. La maison, donc, 104 lignes, un roman particulier, Le commerce des charmes, donc, où vous faites éclater la position du narrateur.
Oui, le principe unique de narration, c'est-à-dire l'histoire du point de vue unique.
Alors, Montrer l'invisible, c'est le livre dont nous avons parlé, une série d'écrits sur image. C'est Lacan que vous citez d'ailleurs, qu'il a imposé comme une évidence avec sa découverte de la fonction psychique du stade du miroir. L'image exerce un pouvoir sur nous, d'autant plus grand d'ailleurs qu'il produit ses effets souvent à notre insu. Dans le registre d'ailleurs de ce que vous appelez, Jean-Paul Curnier, cette familiarité étrange, en somme un peu à la manière d'une légende sans parole. Alors votre livre, en différentes facettes, donc, explore ce caractère énigmatique, comment l'image nous touche, ce que nous y ajoutons, et il constitue donc une contribution nouvelle au dossier déjà important des pouvoirs de l'image, selon l'expression de Louis Marin que vous citez également, et c'est justement le titre également d'une série de textes d'ailleurs, oui. Des gloses, des pouvoirs donc d'ailleurs d'autant plus grands, c'est le fond du paradoxe, qu'il s'exerce sur fond d'évidence, une évidence que vous questionnez, Jean-Paul Curnier. Alors vous commencez par la photographie, reflet de l'immédiat en quelque sorte, manière de suspendre le temps, vous mettez tout ça à la question.
Oui. Oui, en même temps, c'est une approche phénoménologique, en fait. C'est-à-dire que la question que je me posais par rapport aux images en général, et à la photographie en particulier, et au cinéma aussi en particulier, c'est qu'à partir du moment où on est assez d'accord tous pour dire que les images ont un réel pouvoir, peut-être plus une puissance, comme disait Louis Marin, c'est-à-dire une mise en état de se dépenser, où on se sent saisi par la photographie, et même si on ne se sent pas, on l'est, on est saisi par la photographie, ou par l'image d'une manière générale. Donc, disons que l'approche a consisté à essayer de suivre les chemins intérieurs que l'image peut faire en nous, de sorte qu'on puisse savoir comment fonctionne ce pouvoir. Donc, non pas d'une manière extérieure, et non pas en comparant des données ou je ne sais quoi, mais en essayant de travailler depuis le point de vue intérieur, quel chemin font ces images. Et donc, j'en suis arrivé assez vite, c'est le premier d'ailleurs des écrits, à me dire que l'image n'est pas seule dans... Enfin, l'image, si on prend la photographie, elle n'est pas seule pour former une image. Il faut que nous y ajoutions quelque chose, beaucoup, vraiment beaucoup même. Oui. Sinon, ce n'est rien, ce n'est pas une image. Mmh.
Alors, dans cette présentation que je viens de faire, Jean-Paul Curnier, je n'ai pas du tout cité Guy Debord. Et on le sait, vous étiez peut-être pas un proche de Guy Debord, mais vous êtes... Si, quand même.
Oui, enfin, proche de lui, non, mais de cette pensée-là, que cette pensée ouvrait, et du ton qu'avait cette pensée aussi, pour ouvrir le débat sur la question des formes, finalement, d'abêtissement du monde, il faut bien dire les choses comme elles sont. Quoi. Mmh. En tout cas, les formes, peut-être, de vulgarisation de l'existence, pour la rendre, finalement, abaissée, vulgaire. Oui, de ce point de vue-là, oui. Oui. Après, il y a des différences même très très profondes, notamment sur la question de l'image, sur la question du spectacle, et sur la question aussi de l'ego, que j'ai développé dans un autre livre.
D'accord, oui, parce que vous ne le citez pas beaucoup dans celui-ci,
non.
Jean-Paul Curnier, mais vous, à propos de la photographie, justement, vous rappelez cette incroyable histoire lorsque les troupes américaines débarquent à Mogadiscio et tous les journalistes sont là pour les accueillir. Oui. Pour les militaires, d'ailleurs, c'est une situation extrêmement troublante. Oui. Plusieurs l'ont dit, ont témoigné là-dessus, d'ailleurs, ce qui ne préfigurait d'ailleurs pas vraiment des difficultés qu'ils allaient rencontrer dans cette ville. Et je me souviens très bien, ça aurait plu à Guy Debord, de la une de Libération ce jour-là. C'était titré, donc on voyait une photo de ce débarquement. Et le titre était « L'audimat règne à Mogadiscio ».
Oui, c'est d'ailleurs la chose la plus, on peut dire ravissante du point de vue de l'intellect, c'est que cette scène a été rejouée parce que il n'y avait pas d'image, ils ont fait un débarquement de nuit et ils n'avaient pas vraiment prévenu donc les gens qui devaient faire les images. Alors il a fallu faire donc une sorte de deuxième prise,
de répétition. Oui, c'est ça. Ouais.
Donc on a eu des images qui étaient des images pour être des images, donc une véritable fiction au sens que ça, Mogadiscio donc devenait un théâtre d'images et surtout. La question était qu'il y a des enjeux financiers très importants là derrière, donc il n'était pas question de laisser filer un débarquement américain sans avoir des images. Mais tout ça c'était mal coordonné, il aurait fallu refiler le commandement central militaire américain à CNN et ça se serait passé sans doute beaucoup mieux. Or il l'avait filé à l'armée, donc l'armée était incapable de gérer les journalistes, les photographes, etc. Donc ils avaient fait un débarquement maquillé en noir, ce qui fait que ça ne rendait rien du tout sur les images. Voilà, donc ça c'est quelque chose effectivement, quand on voit où peut arriver à se situer l'image et pas seulement les enjeux, les affolements autour de l'image, ça devient tout à fait passionnant.
Alors vous y revenez d'une certaine manière dans ce livre, Jean-Paul Curnier, en évoquant notamment la guerre du Golfe et l'absence d'image là. Mm-hmm. Du coup, le contrôle des images...
Et les images de l'absence d'image, c'est-à-dire... Les journalistes avec souvent une allure assez peinée, enfin désarmée, souvent avec un expert qui tenait une règle à la main et puis une carte, une mauvaise carte de géographie. Tout ça essayait quand même de faire image pour dire « nous n'avons pas d'image ». Et si vous vous en souvenez, la phrase rituelle, c'était « ici Daran, nous n'avons toujours pas d'image ». C'était donc ça, le sujet de la guerre du Golfe. Y a-t-il une guerre s'il n'y a pas d'image aussi ? Que faire ? Nous n'avons que des rumeurs. Alors, on avait quelques images de la nuit à Bagdad avec des espèces de luminescence un peu partout. Et puis c'est tout. Et c'est tout. Et là aussi, on voyait que la question des images n'était pas, ne se posait pas en termes d'ailleurs de qu'est-ce qu'une image, peut-on avoir une image de cela, mais tout simplement, on en arrivait à ces deux conclusions simultanées. La première, il ne peut pas y avoir d'image d'une guerre. Une guerre n'est pas une chose qui fait image. Il y a des images tirées du théâtre des événements ou des affrontements, mais il ne peut pas y avoir d'image qui soit l'image de la guerre. Et d'autre part, c'est que la guerre, ses enjeux, ses effets de propagande, ses informations, utilisent l'image comme une illustration, comme un support d'illustration. Mais surtout, ce ne sont surtout pas des images, ce sont des illustrations. Mmh. Et ce qui compte, comme le dit Jean-Luc Godard, c'est la légende dans cette affaire-là, c'est-à-dire ce qui est sous l'image et dont l'image n'est finalement plus que le support, quoi. Mmh. Et qui nous dit ce qu'il faut voir. Alors que nous pourrions voir tout à fait autre chose que ce qui est sur la légende.
Oui, j'en parlais d'ailleurs à ce même micro avec Georges Dieuberman, dont le dernier livre porte justement là aussi sur l'image. Son titre, donc, c'est « Quand les images prennent position ».
Oui, sur le recueil d'images qu'avait fait Bertolt Brecht.
Voilà, et notamment un montage d'images de guerre, notamment, avec des épigrammes, en fait, composées par Brecht, donc, et qui apportaient justement une légende souvent déroutante, on va dire, à l'image vue. Autre photographie troublante dont vous parlez dans ce livre, Jean-Paul Curnier, c'est celle des femmes afghanes revêtues de burqa.
Oui, là, c'était... disons que ce qui m'avait surpris, c'était à la gare Montparnasse. Et je vois à la gare Montparnasse donc une campagne qui était lancée par un mouvement et qui protestait contre le port de la burqa. Donc... obligatoire de la burqa par les femmes afghanes sous l'ancien pouvoir des talibans. Bien, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait deux choses. Il y avait donc ce portrait d'une femme au tchador grillagé, la burqa, et ensuite il y avait une légende qui disait bon, tant de femmes sont portées disparues. Et moi, l'idée que lorsque le visage est inapparent, ces femmes sont portées disparues, posait immédiatement la question de savoir pour qui ces femmes étaient disparues. Au regard de qui ces femmes étaient-elles dérobées? Donc la question qui apparaît dans cette affaire-là, c'est que ces femmes, d'une certaine façon, ont une image qui nous appartient, nous. Mmh. Et elles devraient y consentir. C'est-à-dire qu'il n'est même pas question que ces femmes se dérobent à la vue de qui que ce soit. En tout cas, pas de nous, occidentaux, etc. etc. Donc, elles sont bien victimes du fait qu'elles soient dérobées à notre vue. C'est-à-dire qu'on les suppose, premièrement, consentantes à être vues. Montrer n'importe où, dans les supermarchés, dans les magazines, etc. Mais de plus, c'est pour leur bien, parce que cette campagne était une campagne politique visant quand même à dénoncer l'autoritarisme du régime taliban. Donc, voilà que tout à coup, sur la question de l'image, se greffait un tout autre processus, qui est le processus de l'appropriation des corps. Nous ne disposons pas du corps des femmes afghanes, mais nous devons pouvoir disposer de leur image. C'était ça que contenait ce message publicitaire. De plus, lorsque on se rendait sur le site internet donc de ce mouvement, il y avait juste à côté le portrait d'une femme qui ressemblait un petit peu à une actrice de film égyptien, enfin très très belle femme orientale. Tout ça. Et c'était donc présenté presque naïvement comme avant et après. Donc on voyait la femme portant la burqa et de l'autre côté ce qu'elle serait une fois libérée, c'est-à-dire une actrice égyptienne. C'est-à-dire donc elles sont supposées toutes très très belles, toutes très avenantes et convoitables finalement.
Oui, alors derrière cette réflexion, effectivement, il y a aussi toute la question des disparus, de la disparition et du deuil impossible aussi que vous abordez dans ce texte, Jean-Paul Curnier.
Oui, là, c'est une affaire plus grave. Plus grave. Disons que dans tous les textes, on passe par des. Il y a des moments ironiques, par exemple, cette question que je viens d'évoquer des femmes afghanes. La question des disparus est une affaire que. Enfin, c'est une question qui est effectivement très, très douloureuse d'une manière. Même lorsqu'on n'a pas des proches qui ont disparu, il y a quelque chose de douloureux. Et c'était ça qui m'avait amené à écrire ce texte. Bon, évidemment, en référence au maire de la place de Mai, à Buenos Aires, mais pas seulement, d'une manière plus globale. Ça me posait la question de cette présence-absence. En quoi consiste l'image du disparu? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'image, ce n'est pas du tout l'image que l'on met sur une pierre tombale, que l'on remet un an après le décès dans les journaux pour dire, voilà, notre cher proche a disparu. Non, parce que ça, c'est une image qui sert de support à la remémoration de qui est perdu. Par contre, l'image du disparu, ce n'est pas non plus l'image d'un présent. C'est l'image de quelqu'un qui est peut-être mort, peut-être pas mort, peut-être ailleurs. Peut-être nous trahit-il en ne se faisant pas connaître, ou en tout cas en ne donnant aucune nouvelle. Peut-être a-t-il été massacré. On est obligé de imaginer. Et donc, ce que j'ai essayé de traiter, c'est cette question de la torture par l'imaginaire. C'est-à-dire comment cette nouveauté qui avait été finalement un petit peu expérimentée en Argentine, en fait, on voyait qu'elle rejoignait d'autres domaines. Il s'agit de mettre une population dans l'affolement de l'imaginaire, à savoir qu'on ne peut pas à la fois haïr le bourreau puisqu'il n'est pas encore attesté qu'il soit bourreau. Mmh. Mais on ne peut que le haïr de ne jamais rien attester. Et cette haine-là n'a pas de prise. Elle ne peut pas saisir l'ennemi. Mmh. Elle ne peut pas demander justice.
Dévoiler une stratégie véritable.
Oui, une stratégie derrière l'image aussi. Oui. Mmh. Oui.
Mmh. Alors, la photographie, donc vous posez beaucoup de questions sur sa nature. Vous dites qu'elle s'apparente plutôt au leurre.
Oui.
Qu'à la, on va dire, description exacte de la réalité.
Oui, mon idée, c'est que la réalité n'a pas d'image. Dieu n'a pas d'image et nous n'avons pas d'image. Mais on peut capter des apparences de ce qui est matériellement existant. Alors bon, qu'est-ce que c'est par exemple un leurre ? Un leurre, c'est donc, souvent d'ailleurs c'est matériel, hein, c'est pour dérouter les avions de combat, dérouter les missiles, enfin dérouter tout cela. Donc ça produit une image, qu'on appelle une image radar d'ailleurs, c'est-à-dire que ça produit l'information sur une présence. Mais cette information est fausse, puisqu'il n'y a pas de présence derrière. Donc il y a soit un nuage de particules, soit un effet de brouillage quelconque, mais à quoi l'interprétation ajoute l'idée d'une présence. Ce n'est que l'interprétation qui donne, pour les appareils de surveillance, la possibilité qu'il y ait un bateau en vue, un avion à l'approche, etc., etc. Donc je dis de la photographie que c'est un peu la même chose dans le sens que si nous n'ajoutons pas de la vie et de notre expérience du vivant à un portrait, par exemple, ce n'est pas un portrait. C'est même rien du tout. Par exemple, il y a une histoire assez ancienne relative à la photographie. C'est un photographe dans le sud saharien et qui photographiait donc les tribus à l'époque en conflit entre les tribus Touareg, donc dans le Sahara occidental. Et donc il photographiait avec une chambre, enfin un matériel assez lourd, et il avait demandé des autorisations, il était plus ou moins protégé, et finalement, il lui demande « Bon, mais qu'est-ce que vous faites ? À quoi ça ressemble, ce travail-là » Et il dit, très content de lui et très heureux des charmes de la photographie, il dit « Ah ben, je vais en faire une », donc il fait un développement de ça, enfin il doit tirer ça sur une plaque, et il la présente au chef guerrier, lequel se met dans une colère noire en disant « Moi, je ne suis pas aussi petit que ça ». Voilà, ça, c'est la question d'interprétation en image. C'est-à-dire que si on regarde une image, on voit quelque chose de tout à fait petit, d'à plat, et qui n'est pas forcément aussi émouvant que ce que ça déclenche chez nous. Donc, je parle de ce qui déclenche l'émotion de la présence.
C'est ça. D'où cette hypothèse, je vous cite Jean-Paul Curnier, « La photographie, bien qu'elle constitue la trace réelle de quelque chose qui a réellement existé, ne peut pas être vue comme la manifestation exacte de l'existence de cette chose.
Mmh. » C'est-à-dire que voilà, ce n'est pas une ombre de la chose, c'est un rapport ombre-lumière d'ailleurs, mais l'existence de la chose, ça nous ramène à Héraclite, il n'y a pas, je veux dire, de continuité absolue, aussi absolue, que ce, dans l'existence, que ce que la photographie nous propose de voir. D'une certaine façon, la photographie nous propose, par exemple, si on regarde un portrait, de voir d'une manière absolument éternelle, parce que rien n'empêche de penser l'éternité que lorsqu'on voit une image, une personne. Or, l'être à l'intérieur est fluide. L'être, c'est comme le fleuve d'Héraclite. On est et on n'est pas en même temps. On entre et on n'entre pas. Dans le même fleuve, il n'y a jamais... l'existence est plutôt à concevoir comme un fluide, comme quelque chose qui devient, et non pas quelque chose que l'on pourrait saisir. Donc l'image ne peut jamais être la photographie de la chose saisie, mais un moment d'existence, très court, extrêmement bref, sur quoi nous faisons une sorte de, comment dire, d'équation en nous disant ben, c'est ça. Voilà.
Mmh. Voilà. Oui.
Mais ce que vous évoquiez à propos de l'usage que je faisais de la découverte, si on peut dire aussi, de Jacques Lacan, c'est que lorsque Lacan donc, élabore ce concept de stade du miroir, ce qu'il dit finalement, c'est que l'enfant à 6 mois, puisque ça se déroule à l'âge de 6 mois, l'enfant à 6 mois perçoit l'unité de son corps avant d'avoir la maîtrise de ses mouvements.
Oui.
Si bien que donc il a l'idée, ou en tout cas l'incorporation, si on peut dire, de son unité, alors qu'il ne l'éprouve pas et qu'il n'en dispose pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut analyser l'image, mais je pense aussi qu'on peut analyser le nazisme de cette façon-là.
Oui, ce que vous faites d'ailleurs dans le
oui,
livre.
Oui, oui, en pensant que le nazisme est proprement un phénomène non pas seulement politique, mais surtout cinématographique. C'est une idée du mouvement en image, du peuple en image, et c'est quelque chose qui a à voir avec un film, avec un délire cinématographique. Plus qu'avec de la propagande. Enfin, je pense que le fond du nazisme, c'est un devenir image en mouvement.
Ce que confirment les grandes messes organisées par ce régime, mais aussi évidemment les propos de Walter Benjamin qui parlait de l'esthétisation de la politique.
Oui.
Et la politisation de l'esthétique et l'esthétisation de la politique.
Alors, il parlait de ça en référence à Brecht, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, je parlais du stade du miroir. Si on se dit, par exemple, tiens, l'image va proposer une sorte d'image du miroir avant que le corps social en ait les gestes. Il y a cette espèce de devenir qui n'est pas seulement un devenir image, qui est un devenir de soi comme unité, qui est présenté par l'image, et à quoi devrait répondre le corps social, d'une certaine façon. Et on peut regarder le nazisme comme ça, et ça donne des effets effrayants, parce que ça permet de comprendre mieux pourquoi il n'y a aucune forme même d'émotion, de cruauté dans le nazisme. Ce qui fait sa plus grande cruauté, encore même son horreur, c'est-à-dire le fait qu'il est d'une certaine façon immoral, et comme si la réalité elle-même avait disparu, qu'elle ne soit que la plasticité qui doit obéir aux images. Et c'est pourquoi lorsque Goebbels disait donc la politique c'est l'art plastique de l'État, on peut l'entendre comme étant la plasticité des masses qu'il faut finalement amener à devenir l'image, le scénario.
Et puis vous rappelez à propos du nazisme justement Jean-Paul Kurnier que Albert Speer, l'architecte et théoricien du Troisième Reich, avait donc échafaudé cette fameuse théorie de la valeur des ruines.
Oui. Théorie effrayante d'ailleurs. Cette théorie consiste à dire que elle se base d'abord sur les ruines antiques et sur notre visite des ruines antiques. Notre visite, je dirais, j'appuierais romantique, c'est-à-dire sur la sensation proche du romantisme que nous avons devant les ruines, à savoir la reconstruction, la restauration. Et Albert Speer donc théorise sous le nom de théorie de la valeur des ruines la chose suivante. Il faut travailler les futures ruines du béton, les futures ruines du Reich, parce que lorsque le Reich aura disparu, parce qu'il ne se fait aucun doute, lui, sur cette question, il faudra qu'à partir des ruines restantes, l'imaginaire de ceux qui les découvriront puisse reconstruire mentalement l'ambition du Reich. C'est à la fois effrayant et en même temps, c'est une pensée de l'esthétique.
Oui, tout à fait.
Et donc une pensée romantique aussi. Oui. Donc de la reconstruction. Oui. Et donc j'y oppose Georges Bataille et la vision du
supplice chinois. Oui, oui.
Où il dit justement, il ne faut pas s'opposer à la ruine. S'opposer à la ruine, la reconstruire, c'est effectivement le système romantique.
Il y a un passage un peu énigmatique que vous allez peut-être nous éclairer, Jean-Paul Kurnier, où vous parlez donc de cette, à propos du romantisme des ruines, de cette connivence entre la ruine et les amants.
Oui, oui. Oui, c'est, et elle est exacte, enfin, il n'y a pratiquement pas de doute, les amants aiment se promener parmi les ruines. Et pourtant, eux, ils sont le début de quelque chose. Et la ruine est une fin, d'une certaine façon. Donc, on pourrait, du point de vue formel, on ne voit pas tellement la relation. Mais on la verra peut-être mieux si on se dit qu'on est dans le temps suspendu. C'est-à-dire que la ruine est ce que le temps a laissé. Et donc le temps n'accélère plus sur les ruines. Les ruines sont définitivement en ruines, et qu'il y pousse par-ci par-là un brin d'herbe, ça ne change pas grand-chose. D'une certaine façon, elles rejoignent donc l'image, c'est-à-dire cette notion d'éternité de la chose, et évidemment ça c'est le souhait des amants. C'est en quoi donc la ruine établit une connivence avec le souhait profond des amants, qui est de ne vieillir jamais, de ne mourir jamais, ou en tout cas d'être figé dans cette extase.
Alors, à propos justement de l'effet d'absence que vous avez illustré de toutes sortes de façons différentes, et de cette sémiotique, on peut dire, ou cette phénoménologie de l'image que vous tentez dans ce livre, Jean-Paul Curnier, vous parlez à propos justement de notre approche, ou d'une approche qui serait pertinente, des images à partir de cet effet d'absence. Vous parlez d'une esthétique du manque.
Oui, c'est une hypothèse que je propose, enfin, sur laquelle je reviens beaucoup dans le livre, et même c'est elle qui l'a conduit un peu. L'esthétique, c'est-à-dire donc le travail de la forme, reposerait non pas sur ce qui est montré, mais sur le travail du vide qu'il faut faire pour que quelqu'un voie quelque chose. Là où il n'y a que des signes, là où il n'y a que du noir, du blanc ou bien des couleurs.
Surface. Voilà.
Donc l'esthétique du manque, ça consisterait à, dans une image, par exemple photographique, pour prendre cet exemple-là, c'est de travailler en profondeur ce qui va manquer pour que ce soit cela qui soit le plus apparent. C'est finalement travailler le regard de l'autre, pour que le regard de l'autre apporte la présence exacte de ce qui ne peut pas être mis en image. Parce que finalement, ce qui est intéressant dans l'image, c'est qu'on y voit ce qui ne peut pas être mis en image. On voit la vie, mais la vie n'a pas d'image. On voit énormément de choses, mais tout cela n'a pas d'image propre, au sens que, contrairement à ce que croyaient les anciens Grecs, l'image, ce ne sont pas des atomes de deuxième catégorie qui sont détachés du corps et qui viennent présenter donc l'apparence de l'être à l'extérieur de lui. Non, il n'y a pas de propriété de l'image, et ça nous amène d'ailleurs même à ces questions juridiques très simples. Il n'y a aucune propriété de l'image pour moi. L'image est faite par celui qui l'a fait ou qui la recueille. Qui en recueille donc ce moment des apparences. Mais fondamentalement, le droit à l'image est une chose tout à fait curieuse, si on l'interroge.
Oui. Oui, d'autant qu'elle s'applique aujourd'hui à des maisons, par exemple.
Oui.
Des objets de propriété. Cela dit, l'image justement du stade du miroir, ça c'est une image à propriété.
Alors, on peut dire qu'elle est à double détente aussi, puisqu'elle est l'image qui précède l'image du corps. Enfin, d'une certaine façon, l'image qui précède le devenir du corps en tant qu'il va devenir image. Il va être cette image. C'est un peu ce qui me semble actuellement, alors résumer aussi la situation contemporaine. D'ailleurs, c'est à peu près à partir de ces considérations-là que je travaille aussi en ce moment, même sur ce qui est plus littéraire. C'est-à-dire... Que devient la photographie, par exemple, dans un monde où tout le monde se conforme à un idéal d'image ? La photographie n'est plus un art ou une technique qui consiste à saisir des apparences et à en faire de l'esthétique. Ça consiste à saisir de l'esthétique et à dire « ça a eu lieu ». Donc, d'une certaine façon, l'image, c'est les gens qui la font. Que ce soit dans un stade, que ce soit... tout se conforme à l'image, de plus en plus. Les jeunes gens qu'on voit se promener dans la rue obéissent à ce qui leur paraît être le mieux du point de vue de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Donc la photographie ne surprend personne. On ne peut plus dire qu'il y a un chasseur d'images. Il n'y a absolument rien à chasser. Les images se produisent. Et donc il y a à recueillir peut-être toutes ces images qui se font. Du coup, ça change totalement le statut de la représentation, puisque la représentation, c'est les gens qui la fabriquent. Et les tentatives d'imager ce qui se fait en termes de tableau vivant, on pourrait dire, ce n'est pas de la représentation, c'est le recueil de ce qui se présente. C'est comme lorsque on filme une pièce de théâtre, on ne peut pas dire que c'est une pièce de théâtre. C'est une émission de télévision qui est allée filmer une pièce de théâtre. Mais ce n'est pas une pièce de théâtre.
On va finir par une histoire, Jean-Paul Curnier, une histoire que vous citez. Donc, c'est un fragment d'Héraclite, le 56e. qui nous dit « Trompés sont les hommes sur la connaissance des visibles, un peu comme Homère, pourtant plus sage que tous les Grecs ensemble. Car des enfants qui tuaient des poux le trompèrent en disant « Ce que nous avons vu et pris, nous le laissons, ce que nous n'avons ni vu ni pris, nous l'emportons. » Et bon, c'est une phrase qui aurait pu être mise en exergue à votre livre, voilà, qui nous aide à entrer dans l'invisible des images, Jean-Paul Curnier. Merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Montrer l'invisible », écrit sur l'image, une publication des éditions Jacqueline Chambon. Et puis, je rappelle le titre de ce roman, « Le commerce des charmes », publié chez 104 Lignes. Merci Jean-Paul Curnier. À bientôt.
Merci. À bientôt.
Demain, je m'entretiendrai avec Thomas Brisson de son ouvrage publié à La Dispute sur les intellectuels arabes en France. Et Toufik Hakem, en première partie, reçoit Jérôme Ferrari pour Un dieu, un animal, publié chez Actes Sud. À plus d'un titre, Céline Leclerc, Toufik Hakem, Jacques Munier, à la technique aujourd'hui, Ronan Mahé. Une réalisation d'Olivier Bétard. Vous écoutez France Culture, il est 16h.